Et salut à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de L'Onde Curieuse, le magazine d'infos loquaces et locales de Fréquence 7. En ce début de semaine, on ne sait plus trop où porter son attention. La vie a l'air de continuer normalement, le mouvement social contre les retraites ressemble à une supplique ennuyeuse. Les professionnels du tourisme continuent de vendre des séjours merveilleux en Ardèche. À l'Ardèche, ses montagnes, ses vergers, ses rivières, mais peut-être que cette année, la descente de l'Ardèche se fera sans canoë. Peut-être que les vergers n'auront pas de quoi nourrir les foules. Peut-être que l'eau potable sera livrée par camion dans nos villages. Et oui, parce que l'eau, hein, avec toutes ces nouvelles, qu'on le veuille ou non, on n'a pas eu de pluie de l'hiver. Pas de pluie, pas d'eau, pas de nourriture. C'est une équation très simple. Ce midi, je reçois Pierre-Yves Marais, porte-parole de la Confédération Paysanne Ardèche. Salut.
Bonjour.
Donc le syndicat paysan milite notamment pour une sécurité sociale de l'alimentation, pour une retraite digne pour les paysannes et paysans, pour une transmission intelligente des terres agricoles et bien entendu pour une meilleure gestion de l'eau. On en parle dans un instant et tout de suite quelques infos. Toujours histoire d'eau, ce week-end c'était l'ouverture de la pêche à la truite dans les rivières d'Ardèche. Les différentes associations de pêche ont démarré leur saison sur un constat plutôt inquiétant, c'est que l'étiage de nombreuses rivières en ce mois de mars rappelle parfois le mois d'août. La fédération sportive est également en charge de la gestion du milieu aquatique et les porte-paroles tirent la sonnette d'alarme. Je lisais ce matin que Michel Comté, qui préside l'association de la Loche, une association de pêcheurs de Privas, se demandait même s'il valait pas mieux interdire la pêche cette année pour laisser aux poissons sauvages le temps de se reproduire tranquillement. Au risque de frustrer quelques passionnés de l'hameçon, l'heure est peut-être d'abord à la préservation. Une autre info de ce week-end, c'est le gouvernement qui expliquait qu'il préférerait ne pas utiliser l'article 49.3 pour faire passer sa loi de réforme des retraites. Théoriquement, les députés sont censés approuver ou rejeter la version qui a été validée cette semaine par le Sénat. Dans la pratique, on ne sait pas à quoi s'attendre de la part d'un gouvernement pour qui la concertation sociale est une simple formalité et le Parlement un outil souvent encombrant et peu efficace. Reste que le peuple frustré, le peuple outré, est appelé à manifester une nouvelle fois ce mercredi à 13h30 à Ponson, en espérant que la vindicte populaire soit suffisante pour impressionner les députés. Et une dernière actu de ce week-end passé, c'est nos confrères de Radio Micheline à Montélimar qui ont vu leurs locaux partir en fumée dans un incendie qui a ravagé l'immeuble du centre-ville où était installé le studio. Alors ils ont sauvé le matériel, ils ont quand même assuré une grosse soirée de bal masqué le samedi soir et à partir de ce lundi, ils cherchent un nouveau local donc de 80 mètres carrés environ sur Montélimar et ses alentours. Si vous avez une piste à leur soumettre, vous pouvez contacter Radio Micheline. Ensuite, ce début de semaine, c'est aujourd'hui le salon Food Ardèche à l'espace Lienhardt d'Aubenas, une journée de rencontre entre les professionnels de la restauration collective pour aborder les enjeux de la nouvelle alimentation. On en parle un peu tout le temps sur cette antenne, plus saine, plus respectueuse de l'environnement, moins carnée, avec une priorité donnée aux produits locaux et de saison. C'est un événement qui est porté notamment par Pétale 07. Sachez que tout le monde est bienvenu cet après-midi. Ce soir à 19h au Vence, on organise une réunion publique en faveur d'une dynamique culturelle sur le territoire. Les associations, les artisans et les commerçants du bassin organisent cette assemblée citoyenne pour permettre à des initiatives de fleurir ce printemps malgré des difficultés institutionnelles notables dans le pays des Vence. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On continue en musique avec Zabalt avant notre plateau du jour avec Pierre-Yves Marais.
Oui. Je l'aime encore, encore plus fort. Que je sente tes côtes, que je sente ton souffle.
Et c'était Zabalt, Serre-moi, c'était pour toi Pierre-Yves Marais.
Ah oui, c'est un de bons copains et un très bon groupe à voir, à consommer sans modération.
Ah, du coup, c'est des copains paysans aussi.
C'est des copains paysans,
ouais. Ok, qu'est-ce qu'ils font alors c'est...
François, le chanteur, est éleveur de vaches, fait du fromage, très bon fromage. Et Julien, le guitariste, fait des petits fruits et des plantes médicinales. J'ai... Et le batteur, je crois pas qu'il soit paysan.
Lui, il est gourmand, lui. Ok, okay super. Merci pour cette découverte, moi je connaissais pas, ça nous a épargné le nouvel hymne paysanne-paysan co-écrit avec HK, merci, on en a discuté en début d'émission. Vous êtes invité aujourd'hui parce que du coup jeudi dernier, la Confédération Paysanne de l'Ardèche tenait son Assemblée Générale, ça a été un succès, il y a eu du monde.
Oui, on était bien une bonne cinquantaine de personnes, donc c'est à peu près comme, enfin c'est, ouais, c'est un bon cru on va dire.
Et ça a été quoi les grandes lignes alors de cette...
Dans une assemblée générale, comme d'habitude, on fait tous les rapports de ce qui s'est passé sur l'année 2022 et puis l'orientation pour 2023. Bon, en ce moment, on est quand même pas mal occupé puisqu'on participe à l'action sociale par rapport à la réforme des retraites. Mmh. Et puis après, tout ce qui va concerner l'agriculture au quotidien, notamment, ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'eau, qu'est-ce qui va se passer cette année. Et puis évidemment, tout un tas d'autres sujets sur lesquels on travaille par rapport à l'installation, le renouvellement des générations, la sortie des pesticides, etc. quoi.
Et oui, c'est les grandes thématiques du moment, là. Je le disais tout à l'heure, ça revient souvent à l'antenne parce qu'on parle d'alimentation, il y a énormément de discours politiques sur il faut relocaliser l'alimentation, on voudrait une souveraineté alimentaire. Je regardais, on importe 40% des légumes frais en France, 60% des fruits. Le salon de l'agriculture a été encore une fois une grosse démonstration de la technologisation de notre agriculture. Et vous portez une autre parole que celle-là, du coup vous prenez une agriculture paysanne. Sur la thématique de l'eau, vous préconisez, vous, une gestion de long terme de la ressource, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, on attend un arrêté préfectoral là peut-être cette semaine pour réguler les captages d'eau par l'agriculture. Vous pensez qu'on peut mettre en place une stratégie de plus long terme ?
Nous, ce qu'on pense surtout, c'est que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on arrose et pourquoi ? Ça a été dit là, dans ce qui vient d'être dit. Si on exporte aussi, on exporte des légumes, mais on exporte aussi ou on importe de l'eau en même temps. Donc relocaliser, c'est ça en fait. Relocaliser, ce n'est pas vendre localement, c'est produire avec les ressources locales et s'adapter à celles-ci. Mais c'est pas du tout, alors qu'on vit dans un monde où en fait l'agriculture s'est construite sur des principes économiques. Donc on a sectorisé les productions et on se retrouve dans des situations assez folles. C'est qu'on tire de l'eau à des endroits où il n'y en a pas beaucoup pour exporter des légumes à des endroits où il y en aurait plus.
D'accord.
Donc l'idée, c'est véritablement d'avoir une réflexion globale et locale en même temps pour trouver un système qui soit le moins énergivore et le plus attentif aux ressources. Et ça existe, il y a des moyens. Mais en fait, nous, notre agriculture, elle s'est construite sur une idée assez forte depuis une soixantaine d'années, c'est de faire baisser les prix. Il faut absolument que l'alimentation soit le moins chère possible. C'est un principe, c'est la réforme, la révolution verte et la PAC de 62 qui mettaient ça en avant, faire baisser le panier de la ménagère dans le budget. Et ben maintenant, il faut absolument revenir là-dessus parce que l'alimentation a un coût. Et l'idéal pour nous à la Confédération paysanne, et si on veut véritablement réussir à sortir de tout ça, il faut sécuriser l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut la sortir des marchés. Il faut la sortir de la concurrence. Et nous, on propose un outil qui est pour nous la base de tout changement politique, c'est la sécurité sociale de l'alimentation.
La sécurité sociale de l'alimentation, ça viserait à garantir à tous les citoyens, citoyennes, un panier alimentaire hebdomadaire de base.
C'est un peu, alors, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un peu le même principe que la sécurité sociale de la santé. Ouais. C'est-à-dire, c'est de sortir l'agriculture des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en concurrence. Moi, je me retrouve en concurrence avec des gens qui sont dans d'autres pays, qui n'ont pas les mêmes règles sanitaires et pas les mêmes règles sociales. Donc, quand on met en concurrence, on nivelle forcément vers le bas. Ouais. Il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, si moi, demain, je produis du raisin de table, si mon raisin de table, moi, pour que je m'en sorte, il faut que je le vende 2,50 € le kilo, mais qu'il y a un autre producteur dans un autre pays, lui, il s'en sort à 80 centimes, ben, moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de baisser mon prix. Ou alors, je suis obligé d'augmenter ma production, donc mettre des intrants, etc. Donc, on est tombé là-dedans. Donc, sécuriser l'alimentation, c'est permettre, justement, sortir l'alimentation des marchés, ouais. C'est vraiment avoir une autre approche de l'alimentation. On n'est plus dans, on sort même à la limite de la politique agricole, on rentre dans des politiques alimentaires.
Parce que du coup, on mentionnait la semaine dernière dans l'Onde Curieuse que le recours aux banques alimentaires et à l'aide alimentaire a explosé là, ces dernières années, et cette année en particulier avec l'inflation. La sécurité sociale de l'alimentation, ça permet d'éviter ce recours à une solution c'est jamais qu'une solution d'urgence, les Restos du Cœur, c'est souvent de la nourriture industrielle. Selon vous, ça permettrait...
Ça permet aussi d'écouler souvent les surplus. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout vertueux. Enfin, c'est toujours mieux que rien pour les gens qui ont rien à manger. Ça, je l'entends. Mais c'est pas du tout vertueux socialement. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'écouler des surplus. Ça a toujours existé c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est véritablement de trouver une solution pour que tout le monde puisse avoir une alimentation de qualité. Et une fois qu'on aura sécurisé ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on pourra se dire, voilà, tout le monde a l'argent pour manger, en face, on peut produire de manière respectueuse, de manière vertueuse, mettre des règles qui soient valables pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les producteurs qui utilisent des pesticides à outrance ou qui sont hyper mécanisés, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie. Ils le font pour répondre à une demande économique. Donc, ouais. En fait, nous, ce qu'on préconise, c'est de réussir à les affranchir de ça. Ouais. Et pour les affranchir de ça, il faut leur garantir des prix, il faut leur garantir la possibilité d'écouler une marchandise sans être sans arrêt. Alors, en agriculture, il y a des trucs qui sont complètement fous. Hein, je veux dire, par exemple, dans des productions comme le cochon, où il faut qu'un cochon prenne 1 kilo par jour. Ouais. Si le cochon, il arrive à ses... maintenant, le cochon, il faut qu'il fasse 120 kilos. Le moment où il est arrivé à 120 kilos, s'il n'est pas vendu dans les deux jours qui viennent, Le paysan il perd de l'argent quoi, parce que le cochon il faut peu qu'il grossisse, mais donc il faut continuer à le nourrir. Donc on est quand même dans des trucs qui sont complètement aberrants et on est au bout du rouleau. Et puis on voit bien qu'en plus cette agriculture qui est hyper productive, en plus de ça elle est hyper énergivore, donc elle produit énormément de déchets, donc elle est très très polluante, donc elle répond plus aux enjeux écologiques qui arrivent. Et par rapport à l'eau, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'arroser, mais ça veut dire que si on sécurise l'alimentation, on pourrait avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'eau et utiliser l'eau là où c'est nécessaire plutôt que d'utiliser de l'eau pour sauver des productions qui, au final, continuent de polluer. Donc, en fait, en ce moment, on est dans l'idée d'arroser des cultures qui, au final, réchauffent la planète.
Oui, c'est ça. Quand on arrose des hectares de maïs dans des régions chaudes... pour nourrir du cochon qu'on exporte et qu'on vend à prix sacrifié, on a perdu un sens de la logique. Dans ce système de sécurité sociale de l'alimentation, ça permet du coup à des paysannes et paysans de garantir des débouchés pour leur culture avec un prix minimum et une utilisation raisonnée de l'eau, par exemple. Et ça permet... Et comment Comment est-ce qu'on arrive à financer ça, à faire en sorte que les...
Alors, toute l'histoire du financement, ça, c'est le débat, en fait. Aujourd'hui, ouais. En fait, c'est un débat qui est posé sur la table. C'est pas quelque chose qu'on amène comme ça, comme une doctrine, en disant, il n'y a qu'à faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est une réflexion. Il y a plusieurs... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de tous ces débats-là. En tout cas, le débat doit avoir lieu, parce qu'il faut absolument, si on veut, dans les années à venir, avoir une agriculture qui soit la plus propre possible, bah, il faut garantir ses prix, et pour garantir ses prix, il faut que les gens y aient accès. Après, bah, il y a moyen, je pense, de trouver, parce que bon, déjà, la PAC, c'est quand même 8 milliards d'euros. Les 8 milliards d'euros ne sont pas utilisés toujours dans des super bonnes conditions, ne favorisent pas toujours les plus vertueux. Il y a d'autres entrées. Il y a aussi, évidemment, tous les bénéfices qui sont faits par l'agro-industrie qui peuvent être aussi réfléchis. Donc, je pense que si on se donnait véritablement les moyens de porter à réflexion ce projet, on trouverait des solutions pour le mettre en œuvre. Je ne pense pas que ce soit bloquant en soi. En effet, ça fait toujours peur. Alors, ce n'est pas des taxes. C'est des cotisations, mais une cotisation, ça fait toujours peur. Mais je veux dire, ça diminuerait d'autant le prix de l'alimentation pour les gens qui ont... Et puis, il y a quand même des frais. Hein. Je crois que le réchauffement climatique, toutes les catastrophes naturelles, bah, sans arrêt, ça revient de plus en plus cher. Je crois que maintenant, on est à peu près chaque année à l'équivalent de la PAC en frais de calamité, pas forcément qu'en agriculture. Hein, mais bon, je pense qu'il y a de l'argent... Je pense qu'on pourrait. Je crois qu'on. Quand on sait. Je suis pas très bon pour les chiffres, mais quand on voit tout ce qui est donné aux grandes entreprises et tout, je pense qu'à un moment donné, on devrait pouvoir financer quelque chose, un projet comme celui-ci.
Oui, pour la sécurité sociale de l'alimentation comme pour les retraites, effectivement, l'argent existe. Il faut juste savoir un peu le détourner. Et c'est très intéressant de réfléchir aux retombées négatives du réchauffement climatique, le fait que ça coûte et que, du coup, on est à un moment charnière où il faut oser investir. Dans une écologie et une agriculture qui soit plus vertueuse, et ça amortirait les coûts de lutte.
Et juste pour revenir sur l'eau, alors là en ce moment, même en Ardèche, hein, on est sur l'idée qu'il faut absolument irriguer pour sauver les récoltes. Alors ce qui peut très bien se comprendre, hein, quand on est paysan et qu'on voit le réchauffement climatique, on est en vie. Et donc on va irriguer les vignes, par exemple, culture qui typiquement peut vivre sans eau, ou en tout cas peut supporter beaucoup mieux les sécheresses. Mais le problème, c'est que quand on rentre dans ce genre de changement, c'est du changement que ça paraît. On n'y pense pas forcément d'entrée de jeu, mais une fois qu'on aura commencé à irriguer les vignes, on ne pourra plus s'arrêter.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est irréversible. C'est-à-dire que tout le système racinaire de la plante va changer, tout va changer. Donc on part dans une nouvelle mode de production. Donc on est en train de rendre gourmand en eau des productions qui ne l'étaient pas. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on risque d'avoir de moins en moins d'eau. Et que certains ne veulent pas le reconnaître, le rapport du GIEC indique quand même que jusqu'à 1,5, on aura encore de l'eau à peu près correctement, mais à partir de plus de 2, on en aura de moins en moins dans le bassin méditerranéen de degrés de réchauffement climatique. Ouais. Et que si on arrive, comme le dit le président de la transition écologique, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, le ministre, je n'ai jamais son nom, si lui il dit carrément qu'on risque d'arriver à 4 et il va falloir s'adapter, là on risque d'avoir des gros problèmes d'eau. Oui. Donc ce n'est pas très judicieux, si vous voulez, à un moment comme ça, de commencer à vouloir irriguer des cultures qu'on n'aurait pas forcément besoin, d'installer, de faire des gros investissements là-dessus, alors qu'au contraire, il va falloir aller dans le sens contraire, c'est-à-dire réfléchir à comment économiser l'eau et bien la partager.
Et oui.
Parce que l'eau, elle ne concerne pas que l'agriculture.
Et oui, mais là, en plus, en Ardèche, on est en train d'arriver au zénith de la production viticole. Pendant 30 ou 40 ans, on a recommencé à faire pousser des vignes plutôt dans les plaines fertiles. Elles ont un peu quitté les sommets et les failles arides. On les a habituées à vivre sur les plaines alluviales du Chazac, de la Baume. Et du coup, bon, là, ça y est, on a enfin un vin de terroir ardéchois. Il y a 15 jours, moi, j'apprenais que les viticulteurs français faisaient face à un surplus de vin et que du coup, ils demandaient au gouvernement de pouvoir le distiller pour en faire des biocarburants. Ouais. Donc à un moment, on se retrouve
donc,
vraiment...
On va arroser. Ça fait pas rire. Hein. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à devoir arroser des vignes dont on n'est même pas sûr de pouvoir vendre et on se retrouve de faire des biocarburants. Et ça aussi, hein, le problème énergétique sur les terres entre la méthanisation, les biocarburants, l'agrivoltaïsme, Là aussi, il y a un débat, puisque maintenant, et encore une fois, en fait, tous ces outils-là, enfin, tout ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de sauver l'économie néolibérale, qui profite à certains, qui en effet, hein, faut reconnaître que faut pas jeter le alors je dis pas forcément l'économie néolibérale, mais le monde a bien évolué, il y a des choses qui ont été faites et qu'il faut pas nier. Mais par contre, aujourd'hui, c'est temps véritablement de s'adapter non pas au réchauffement climatique, mais à un nouveau projet de société qui permettrait d'éviter au maximum le réchauffement climatique.
Et comme on n'a pas vraiment de levier d'action, enfin si, on a tous collectivement des leviers d'action sur les politiques nationales, etc. Mais est-ce que, par exemple, la Confédération paysanne ardéchoise arrive à parler franchement avec des décideurs du département de...
Départemental, non, pas trop. On avait un peu plus de facilité quand c'était à gauche que quand c'est à droite, parce qu'on est, c'est vrai, on est quand même plus, on penche plutôt un peu dans les côtés gauche, on va dire. Donc là, c'est un peu plus tendu, on va dire. On essaie quand même d'être toujours présent. Et puis, nous, on est quand même assez satisfait parce que même si l'histoire, avec le recul, on se rend compte quand même à plein de fois que chaque fois qu'on a alerté, on n'avait pas si tort que ça. Qu'en fait, la société est quand même de manière assez... assez général, assez en accord avec que ce qu'on finit par défendre. Donc on n'est pas... Mais en effet, nous, l'économie néolibérale telle qu'elle est mise en ce moment, qui est une économie de profit, de travailler plus, de croissance infinie. Alors croissance financière, parce que on parle toujours de croissance comme si la croissance était cofinancière, mais il y a des croissances, d'autres formes de croissance qui disparaissent. Nos biens communs disparaissent. Tout ce qui... la culture... Et ça devient de plus en plus difficile. Enfin, moi, je veux bien faire de la croissance culturelle. Moi, je veux bien qu'il y ait plus de facilité d'accès à la culture et tout. Mais par contre, l'argent, à un moment donné, on n'en fera pas des confitures. Donc il faut bien, à un moment donné, trouver des équilibres pour que tout le monde partage, qu'il y ait une meilleure partition des revenus, ça c'est évident. Et alors, ce n'est pas du tout le discours, évidemment, des politiques néolibérales.
Non, par contre, c'est vrai, tu disais que vous étiez un syndicat orienté à gauche. Après, moi, je pense que tout ce qui est préservation des ressources qui permettent la vie sur Terre, ça relève ni de la gauche ni de la droite. C'est quelque part la préoccupation écologique, elle devrait être transpartisane. Enfin, on n'a plus besoin de drapeau, quoi. Mais c'est vrai que la logique...
Après, il y a quand même une enfin, il y a quand même... Alors, toutes les politiques productivistes se sont mises en place sans tenir compte des pollutions. Et en fait, c'est typiquement le problème des pesticides, en fait. C'est que les pesticides ont permis à l'économie productiviste et néolibérale de s'installer. Donc, si ce sont des outils de ces économies-là. Donc, si on les enlève, ces économies-là ne peuvent pas tenir. Donc, on essaye aujourd'hui de faire des remplacements techniques, mais ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est véritablement un autre projet de société. Mais encore une fois, c'est jamais tout blanc et tout noir. Il y a des choses qui ont été intéressantes, qui ont été faites dans le passé. On est tous contents d'avoir une machine à laver pour laver nos on n'est pas... quand Macron, il répond qu'on est soit néolibéral, soit amish, c'est pas vrai. Oui. Nous, à la conf, on défend vraiment les voies du milieu. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on n'est pas obligé, on n'est pas contre le progrès, on n'est pas pour un monde où on vit à la bougie et tout. C'est pas vrai. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un monde justement qui sache économiser, qui sache faire attention, qui sache prendre soin et qui sache aussi, et pour nous paysans, cultiver avec le vivant, faire avec, faire pas contre, pas faire contre, faire véritablement avec. Et nous, c'est vraiment notre cœur de notre travail parce qu'on sait très bien que c'est de là avec ça que les choses peuvent avancer.
Et du coup, faire avec le vivant, ça demande aussi peut-être une agriculture qui soit plus à échelle humaine, échelle de petites exploitations. Je voulais aborder un dernier thème avec vous, c'est la répartition des terres agricoles. Aujourd'hui, je vois que un gros quart des agriculteurs français partent en retraite dans la décennie qui vient. En plus, on leur garantit pas des retraites incroyables. L'augmentation de la taille des exploitations est exponentielle depuis 30 ans. Voilà, ça, il y a 5 millions d'hectares qui s'apprêtent à changer de main, et Terre de Liens commence à alerter aussi sur la financiarisation de l'agriculture. C'est pas vraiment la solution que vous prônez.
Ah, pas du tout. En plus, alors, c'est pas 30 ans, hein, ça fait depuis, en fait, la fameuse PAC et la Révolution verte dont on parlait tout à l'heure, qui avait donc deux objectifs. C'était de faire baisser le prix du panier de la ménagère dans le budget des ménages et de libérer de la main-d'œuvre. Parce qu'à ce moment-là, l'agriculture était très demandeuse de main-d'œuvre et il y avait l'industrie qui avait besoin de main-d'œuvre. Donc il a fallu libérer de la main-d'œuvre. Donc on a agrandi les fermes via la mécanisation et les produits phytosanitaires qui ont augmenté les rendements et baissé le nombre de paysans. Alors peut-être qu'à un moment donné, il fallait certainement passer par cette étape, mais on est toujours dans cette logique-là. Alors qu'on aurait pu à un moment donné l'arrêter. Et notamment quand Chirac était. Ce qui a très bien marché, 10 ans après, en 72, quand Chirac était président de ministre de l'Agriculture, on était déjà dans les surplus. Donc on aurait pu à ce moment-là avoir une réflexion différente, on ne l'a pas fait, on a continué. Et aujourd'hui, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de nouveaux enjeux qui se mettent en place, c'est les enjeux énergétiques. Donc évidemment que les terres agricoles maintenant vont complètement changer, parce qu'entre l'agrivoltaïsme, les méthaniseurs, les cultures de biocarburants, ça risque d'être chaud. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est en effet que dans l'absolu, que les terres soient véritablement réparties selon nos besoins et non simplement selon les profits qu'on peut faire dessus. Quoi.
C'était un peu le rôle de la SAFER, ça, non ?
Alors la SAFER, c'est une société qui a beaucoup changé depuis son existence. Ouais. Au départ, ouais, c'était son propre rôle. Aujourd'hui, elle est un peu plus limitée. Mais la SAFER, elle ne va pas aller, elle va réguler sur les achats, mais c'est pas elle qui va empêcher l'agrandissement des fermes. Le problème des fermes qui s'agrandissent, c'est non seulement elle est au niveau de l'emploi en général, c'est un peu catastrophique, mais c'est la capitalisation qu'il y a derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que cette ferme elle est devenue hyper grande, elle est intransmissible. Mmh. Et le seul qui peut la racheter, c'est un qui a suffisamment d'argent, donc en général qui est encore plus gros.
Qui sera plus gros, ouais.
Okay. Donc c'est surtout le problème de l'agrandissement est surtout là, quoi. Et puis après, ben, évidemment, je pense que si on le voulait, nous, on préconise 1 million d'installations dans les 10 ans qui viennent. Ouais. Et c'est un métier qui a du sens, c'est un métier qui a de l'intérêt, c'est un métier qui peut, y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, qui est tellement dévalorisé. Et malgré ça, il y a énormément de porteurs de projets. Ouais. Donc je pense que si on y mettait de la bonne volonté, on pourrait installer. Et ça permettrait d'utiliser à mieux les ressources locales et d'arrêter sans arrêt ces échanges qui sont à la fois polluants, mais qui exporte aussi l'eau, qui exporte aussi tout un tas de problèmes et qui en fait ont un non-sens. Et, ouais, c'est grand temps en tout cas. Moi, je pense qu'on parle toujours d'adaptation. On a encore le temps, si on se bouge vite, de changer et puis surtout de préparer autre chose, quoi.
Pour favoriser des installations en agriculture paysanne, on pourrait imaginer quoi comme levier juridique ? Ça voudrait dire que l'État préempte sur des cessions de terres et qu'on remorcelle les parcelles.
Pour ce qui est des terres, clairement, il faudrait qu'il y ait un droit à l'usage, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les terres, oui, qu'il y a un droit à l'usage. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans la rigolade, quoi. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait un droit à l'usage. Et puis surtout, changer la PAC, parce que la PAC, en fait, aujourd'hui, elle favorise l'agrandissement, ouais. Puisqu'elle elle fonctionne qu'à l'hectare. Et donc, nous, on préconise depuis longtemps, on demande une PAC à l'actif, favoriser D'accord. l'emploi. Plus on favorisera l'emploi, plus ce sera logique. Nous, en fait, notre idée, ce serait de favoriser en premier l'emploi et puis ensuite les zones à handicap naturel.
D'accord.
Pour équilibrer entre, en effet, un producteur de céréales dans la Beauce et un producteur de céréales en montagne, quoi. Mais je veux dire, c'est l'emploi, il faut favoriser l'emploi.
Et ça demande du coup, c'est au Parlement européen que ça se discute, la PAC, hein.
Alors les PAC, en fait, la PAC et tous les budgets, alors moi je ne suis pas un spécialiste non plus de la PAC, mais enfin tous les budgets sont votés au Parlement européen, mais après les politiques nationales peuvent choisir chacune. Il y a des pays, alors le ministre de l'Agriculture, quand on lui a parlé de, c'était pas celui-là, celui d'avant, de Normandie, quand on lui a, la CONF lui a parlé de la PAC à l'emploi, il a dit que ça allait favoriser les pays comme la Roumanie. Vive l'Europe. Vive l'Europe.
Très dur. Très dur, très dur. Merci beaucoup, Pierre-Yves Marais.
Merci à vous. Merci à Fréquence 7.
Ça va être le début de la fin de cette émission. Je vous invite à aller voir, les prises de position de la Confédération Paysanne et de la Confédération Paysanne Ardéchoise sur toutes ces thématiques de résilience, relocalisation de l'agriculture et de la production alimentaire, l'accès à la ressource, l'accès aux terres, l'accès à l'eau. Je vous invite également à regarder la page de Terre de Liens, qui, sur terredeliens.org, loa.gouv.fr/loa pour la loi d'orientation agricole qui est discutée en ce moment au gouvernement et qui devrait donner l'orientation de nos politiques agricoles pour la décennie qui vient. Gros signal d'alarme tiré par Terre de Liens sur justement la financiarisation de l'agriculture. L'idée que maintenant il y a des sociétés par action qui rachètent des centaines et des centaines d'hectares de terre. Pour continuer une agriculture industrielle, donc gourmande en énergie, gourmande en ressources. Voilà, on va peut-être amorcer le changement à partir d'aujourd'hui ou à partir d'hier ou à partir de demain, mais n'attendons pas trop. Merci à toutes et à tous, merci Sylvain pour cette régie et à demain pour une nouvelle Onde Curieuse. Ah non, pas à demain. Je vous annonce d'abord ce qui se passe, excusez-moi, parce qu'on est lundi et qu'il se passe beaucoup de choses sur Fréquence 7 le lundi. À 13h, rediffusion des Jardins Suspendus. À 15h, c'est le Telex. Toujours vos messages au 04 75 93 30 25. 17h, rediffusion de l'Onde Curieuse de ce midi. À 18h, c'est la rediff de Solidaire d'abord. 18h45, les Monts de demain. Et à 21h, Hexagone Jazz & Bee. Une rediffusion sur Georges Brassens et le jazz. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi et à demain.